depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère de la Justice appelle à la Journée mondiale du Braille pour sensibiliser au droit d'accès à l'information. L'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, ou BPOM, affirme qu'une collaboration mondiale est nécessaire pour prévenir une pandémie silencieuse causée par la résistance aux antimicrobiens. Des militants de la conservation expliquent leur stratégie pour réduire le risque de collision avec des oiseaux. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. Le ministère de la Justice a déclaré que la commémoration de la Journée mondiale du Braille était un élan pour sensibiliser davantage au droit d'accès à l'information pour tous les groupes, notamment les personnes handicapées. Cité par Antara à Jakarta samedi, le directeur du droit d'auteur et du design industriel de la Direction générale de la propriété intellectuelle, le ministère de la Justice, M. Agung Damarsasongko, a déclaré que la Journée mondiale du Braille n'était pas seulement une célébration, mais un rappel que l'accès aux livres et à la connaissance était un droit fondamental de chaque individu, y compris des personnes handicapées. Il a expliqué qu'à travers le règlement gouvernemental visant à faciliter l'accès aux créations pour les personnes handicapées, le gouvernement s'engage à fournir un accès inclusif aux personnes handicapées. Ce règlement offre aux personnes handicapées la possibilité d'obtenir, d'utiliser, de modifier des formats, de dupliquer des formats, faire des annonces, distribuer des formats et ou communiquer une offre protégée en totalité ou en partie substantielle sous forme de braille, de livret audio ou d'autres moyens sans faire face à des obstacles juridiques. Ce règlement donne également la liberté aux établissements d'enseignement, aux bibliothèques et à d'autres communautés de produire et de distribuer des offres dans des formats accessibles aux personnes handicapées sans avoir à demander l'autorisation du titulaire du droit d'auteur en soumettant une demande de facilitation d'accès au ministre de la Justice. Il a ajouté que la Direction générale de la propriété intellectuelle continue également de s'efforcer d'utiliser la technologie moderne pour soutenir l'accessibilité. Les innovations telles que le dispositif de conversion numérique en braille et les applications de leur écran sont désormais de plus en plus accessibles. L'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, ou BPOM, a déclaré la nécessité d'une collaboration mondiale pour prévenir et traiter la résistance aux antimicrobiens qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, tuera 10 millions de personnes par an en 2050. Dans un communiqué reçu samedi à Jakarta, le chef de BPOM, Taruna Ikrar, a déclaré que la résistance aux antimicrobiens, ou RAM, pourrait provoquer une pandémie silencieuse parce que le chiffre mentionné par l'OMS dépasse le taux de mortalité par cancer. En dehors de cela, RAM peut également menacer le système de santé mondial parce qu'il s'agit d'un phénomène biologique complexe qui menace la capacité des humains. Il a ajouté que les hôpitaux et les établissements de santé seront obligés de développer des protocoles de traitement alternatifs beaucoup plus coûteux et complexes. De plus, selon lui, les procédures médicales qui sont actuellement considérées comme routinières deviendront des procédures à haut risque avec un potentiel de complications infectieuses important. Parallèlement, a-t-il déclaré, en Indonésie, la résistance aux antimicrobiens a des dimensions complexes influencées par les facteurs géographiques, démographiques et du système de santé. En tant que pays avec de richesses écologiques et de pratiques de santé diverses, l'Indonésie est confrontée à des défis uniques pour contrôler la propagation des micro-organismes résistants. Le militant pour la conservation de l'Institut indonésien des oiseaux, M. Ahmad Ridho Junaid, a déclaré que des stratégies d'atténuation étaient nécessaires pour réduire le risque d'impact d'oiseaux ou de collisions entre avions et oiseaux qui auraient causé des accidents d'avions en Corée du Sud. Cité par Antara à Jakarta samedi, il a expliqué la stratégie principale pour atténuer les impacts d'oiseaux peut être fait via une bonne gestion de l'habitat des oiseaux. Idéalement, selon lui, les aéroports ne devraient pas être construits sur des terrains qui constituent un habitat pour les oiseaux. Mais s'ils ont été construits, la zone à l'intérieur ou autour de l'aéroport peut être gérée en réduisant les ressources qui attirent les oiseaux, telles que la nourriture, l'eau ou bien certaines végétations. En outre, l'approche doit être renforcée par une surveillance et des enquêtes régulières sur les populations d'oiseaux. Les informations sur le schéma d'activité des oiseaux locaux peuvent également être utilisées pour déterminer les aires et les lieux présentant le risque le plus élevé. Le rôle de la technologie avec les radars et les systèmes de détection en temps réel est aussi nécessaire pour permettre aux aéroports de détecter la présence d'oiseaux dans les airs. Il a également souligné l'importance de collaborer avec des biologistes pour comprendre le comportement spécifique des espèces d'oiseaux autour de l'aéroport afin que les stratégies d'atténuation puissent être ajustées. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, offre un accès facile au traitement des certificats de navigabilité des navires de pêche pour simplifier le processus administratif et soutenir le bon fonctionnement des navires de pêche afin qu'ils soient conformes aux exigences et à la sécurité pour naviguer en mer. Cité par Antara à Jakarta dimanche, le directeur général des pêches de capture, Lotharia Latif, a déclaré que ce service était accessible en ligne et via des services des ports de pêche et des points de service intégrés. Latif a déclaré que grâce au SKKP, les navires de pêche et les navires de transport de poissons ont été déclarés avoir rempli des aspects de navigabilité, de capturabilité et de navigabilité, de sorte qu'il soit conforme aux exigences et à la sécurité pour la navigation en mer. Le directeur principal de l'Agence pour l'accessibilité des télécommunications et de l'information, ou BACTI, du ministère de la communication et du numérique, M. Fadilah Matar, a déclaré que son parti poursuivait toujours les études pour le développement des infrastructures numériques pour la République satellite de l'Indonésie 2, ou Satria 2. Cité par antara à Jakarta samedi, il a expliqué que l'étude a été réalisée pour assurer la plus grande utilisation pour la communauté. En octobre 2024, Bhakti assure la construction de Satria 2, se poursuivra et conçu comme un satellite jumeau ou un jumeau géostationnaire. Selon le chef de la division satellite et accès Internet de Bhakti du ministère de la Communication et du Numérique, M. Haris Sangidun, les deux satellites seront nommés Satria 2A et Satria 2B. Tous deux devraient pouvoir améliorer la qualité des services Internet en Indonésie pour les rendre plus stables et plus rapides, notamment en créant une connectivité numérique équitable en Indonésie. Sur la base des données du laboratoire de santé publique et des laboratoires hospitaliers du ministère malaisien de la Santé, ou KKM, il y a eu 327 échantillons positifs sur le métapneumovirus humain, ou HMPV, en 2024. Pendant ce temps, en 2023, 225 échantillons positifs pour le HMPV ont été trouvés dans le pays. Cité par Antara à Jakarta dimanche, le ministère malaisien de la Santé a déclaré que l'infection par le métapneumovirus humain ou HMPV n'était pas une nouvelle maladie dans le pays. Ceux qui contractent une infection par cette maladie ne sont pas non plus tenus de signaler ou de notifier en vertu de la loi de 1988 sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. Le ministère malaisien de la Santé a déclaré que l'augmentation des infections respiratoires aiguës à la fin et au début de l'année était un phénomène qui avait été prédit auparavant, en ligne avec l'augmentation des infections respiratoires également signalées dans d'autres pays, notamment avec des saisons hivernales comme la Chine. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique La mise au point de la semaine, intitulée Le ministre indonésien des Affaires étrangères lance un tableau de bord sur la gastrodiplomatie comme puissance douce pour la diplomatie indonésienne. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, M. Sugiono, a lancé lundi 30 décembre 2024 le tableau de bord de la gastrodiplomatie indonésienne au ministère des Affaires étrangères de Jakarta. Dans son discours, le ministre Sugiono a déclaré que la cuisine était l'une des stratégies diplomatiques de soft power qui s'est avérée efficace pour devenir un pont culturel. Selon lui, la cuisine a également un grand potentiel pour améliorer l'économie, le commerce et les relations internationales. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a noté qu'en 2024, 30 produits épicés indonésiens et 9 produits d'assaisonnement ont été exportés vers divers pays. Mais le ministre des Affaires étrangères Sugiono a souligné les défis rencontrés par la diplomatie de la gastronomie indonésienne. Il a expliqué que la coordination, la collaboration et la synergie sont nécessaires de la part de toutes les parties prenantes pour faire de la cuisine indonésienne une marque nationale. Dans le même esprit, le député chargé de la créativité culturelle et du design au ministère de l'économie créative, Madame Yuka Sri Rahayu, a exprimé l'engagement de son ministère à continuer d'encourager le renforcement de la mise en œuvre de la gastrodiplomatie indonésienne. Elle estime que le tableau de bord de la gastrodiplomatie indonésienne accélérera les efforts pour présenter les délices culinaires indonésiens à la communauté mondiale. Le tableau de bord de la gastronomie diplomatie indonésienne est une plateforme construite à l'initiative du ministère des Affaires étrangères pour fournir une référence aux acteurs culinaires nationaux et aux représentants indonésiens à l'étranger dans l'élaboration de stratégies de gastrodiplomatie efficaces. Cet effort a été mené pour soutenir la diplomatie économique en faisant progresser la gastronomie en tant qu'atout diplomatique de soft power de l'Indonésie et soutient le programme L'Indonésie donne du piquant au monde qui est en cours depuis 2021. Le tableau de bord de la gastrodiplomatie indonésienne présente des visualisations de données sur les restaurants indonésiens et les produits d'épices et d'assaisonnement à l'étranger sur la base des résultats d'une enquête menée par le ministère des Affaires étrangères de mars jusqu'à mai 2024, en collaboration avec des représentants indonésiens dans divers pays. Les résultats de l'enquête 2024 ont enregistré un total de 1221 restaurants indonésiens à l'étranger. Pendant ce temps, Henry Setiono, fondateur et PDG du groupe Baba Rafi Enterprise, a salué l'initiative de tableau de bord de la gastrodiplomatie. Selon lui, cette étape est une avancée stratégique dans le renforcement de la diplomatie culinaire indonésienne sur la scène internationale. En tant qu'acteur de l'industrie culinaire ayant d'expérience d'introduction des saveurs indonésiennes sur le marché mondial, Hendy a souligné l'importance de la synergie entre le gouvernement et les acteurs commerciaux. Il a également évoqué le grand potentiel pour les petites micro-culinaires d'utiliser cette plateforme. Selon lui, le MPME culinaire joue un rôle important dans l'introduction de la culture indonésienne à travers l'alimentation. Grâce à ce tableau de bord, ils peuvent accéder à des informations et à des opportunités de développement sur le marché international. Auparavant, Hendy a également souligné l'importance de la diplomatie entre les pays à travers les désirs culinaires typiquement indonésiens, en particulier pour le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Selon lui, les arts culinaires peuvent être un point d'entrée pour introduire la culture indonésienne tout en améliorant le bien-être des gens. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Je commencerai par les événements du 5 janvier 1960, la mort d'Albert Camus. Il était un écrivain et philosophe français d'origine algérienne. Il est souvent classé parmi les écrivains existentialistes. Camus est d'origine espagnole. Il a remporté le prix Nobel de littérature à l'âge de 44 ans en 1957. Il est devenu le deuxième plus jeune lauréat du prix Nobel de littérature de l'histoire. Albert Camus est décédé dans un accident de voiture à Villeblevant le 5 janvier 1960. Le 5 janvier est célébré comme la journée du corps féminin de marine. Le 5 janvier est un jour important en Indonésie, notamment pour l'armée et la marine nationale indonésienne. Le 5 janvier 1963, 12 premiers participants du corps des femmes de la marine ou COAL ont été nommés officiers de COAL. La naissance de COAL commençait en 1962 lorsque l'idée est née au sein de la marine de mettre en œuvre le rôle des femmes indonésiennes dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment dans le domaine des dimensions maritimes. La création de COAL a pour objectif de donner aux femmes indonésiennes les droits, les obligations et l'honneur d'occuper les postes de travailleuses indonésiennes dans le contexte de l'amélioration de l'efficacité organisationnelle. La première date d'inauguration de COAL, le 5 janvier, a ensuite été célébrée chaque année en Indonésie sous le nom du jour de COAL. Le 5 janvier 1970, tremblement de terre à Tonghai. Le tremblement de terre de Tonghai en 1970 s'est produit à 1h41 heure locale le 5 janvier avec une magnitude de 7,1 et une intensité Mercalli maximale de X ou extrême. Au moins 10 000 personnes ont été tuées, ce qui en fait l'un des événements les plus meurtriers depuis une décennie. Survenu au plus tard de la révolution culturelle, cette catastrophe n'a pas été largement médiatisée par le gouvernement chinois pendant plus d'une décennie. Ce tremblement de terre est devenu l'une des raisons derrière la création du plus grand système de surveillance des tremblements de terre de Chine 25 ans plus tard. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
chansons de pop indonésiennes. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter les programmes prioritaires du ministère de la Jeunesse et du Sport en ligne avec Asta Cita. Le député chargé de l'autonomisation des jeunes au ministère indonésien de la Jeunesse et du Sport, M. Asrorun Niam Soleh, a déclaré qu'il donnerait la priorité au programme de correspondant à la grande vision du cabinet Rouge Blanc 2024-2029, Asta Cita en 2025. Comme cité mardi sur le site officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, Asrorun a déclaré qu'actuellement le ministère de la Jeunesse et des Sports suit les orientations du président Prabowo, notamment en éradiquant les jeux d'argent, de la drogue et renforcer la culture numérique pour prévenir les impacts négatifs de la technologie. Il a ajouté que le ministère de la Jeunesse et des Sports est prêt à devenir le principal agrégateur et secteur de services à la jeunesse et continuera d'adapter les programmes aux défis de l'époque, garantissant que la jeunesse indonésienne soit prête à affronter la nouvelle ère avec l'optimisme et la créativité. Asrorun a également déclaré précédemment qu'en 2024, avec un budget de 116 milliards de roupies, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait lancé un certain nombre de programmes stratégiques, entre autres le renforcement de la créativité et du caractère, le développement de l'alphabétisation numérique, la lutte contre le jeu en ligne, la drogue et l'utilisation abusive de la technologie, intégrant un esprit pionnier et un esprit de défense du pays dans le programme de développement de la jeunesse. Selon lui, cela marque également la première étape du ministère de la Jeunesse et des Sports pour renforcer le rôle des jeunes en tant qu'agent de changement dans la dynamique mondiale. En 2025 est le moment d'aller plus loin en faisant de la jeunesse indonésienne les principaux piliers d'une nation créative, innovante et compétitivité à l'échelle mondiale, a déclaré Asrorun. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Thank you. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régional et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la cascade de Banyulawe à Madiun, Java Est. La cascade de Banyulawe est l'une des visites de cascade à ne pas manquer lors de la visite du district de Madiun, précisément située dans le village de Kepel, sous-district de Kare, Madiun. Situé sur la pente de montagne Willis avec une ambiance cool, cet endroit est très beau et offre une expérience rafraîchissante et paisible. Cette cascade semble onduler lorsqu'elle est vue de loin, c'est pourquoi la population locale l'a nommée la cascade de Banyulawe. La cascade de Banyulawe, d'une hauteur d'environ 30 mètres, est entourée de belles forêts, créant une atmosphère fraîche et naturelle. Le débit d'eau rapide ou clair rend cet endroit idéal pour se baigner ou bien jouer dans l'eau. Le bruit de l'eau gargouillante combiné au chant des oiseaux rapproche les visiteurs de la nature. L'accès à la cascade de Banyulawe nécessite un petit effort, parce que le chemin jusqu'à l'emplacement est assez difficile, mais votre voyage sera pleinement récompensé par les vues extraordinaires qui vous attendent à destination. Cet itinéraire de randonnée ajoute également à l'expérience d'aventure passionnante. Ce lieu propose également des spots photos naturels instagrammables. Les grosses roches autour de la cascade sont souvent utilisées comme toiles de fond par les visiteurs. Même si les installations autour de la cascade ne sont pas très complètes, les touristes peuvent grand même profiter de leur visite. Il est recommandé d'apporter vos propres fournitures, surtout si vous prévoyez de passer plus de temps à cet endroit. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia?
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Sur Samy, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Sumba et la meilleure destination à visiter en 2025. L'île de Sumba, dans l'est de Nusa Tenggara, a attiré l'attention du monde après avoir été désignée comme l'une des meilleures destinations à visiter en 2025. Selon le guide de l'expert The Bias Time Out, Sumba a été sélectionnée sur la liste des meilleures destinations à visiter en Asie en 2025, avec d'autres villes d'Asie comme Siargao, Danang, Ipoh et Osaka. La liste comprend des destinations émergentes qui ont longtemps été négligées ou auparavant difficiles à atteindre. Cette destination attire l'attention des touristes qui recherchent des alternatives aux destinations déjà largement visitées. Les meilleures destinations d'Asie sélectionnées par l'équipe de rédacteurs et de contributeurs de Bias de Time Out possèdent des attractions naturelles spectaculaires, une culture riche et une variété culinaire fantastique. L'île de Sumba est considérée comme combinant une beauté naturelle avec des attractions culturelles durables. Cette île est célébrée pour ses plages, comme celle de Nihiwatu, autrefois désignée comme la meilleure plage du monde, ainsi que pour son magnifique paysage de savane. Vous pouvez explorer la lagune de Wekuri, une piscine naturelle d'eau salée propice à la baignade, ou profiter de sa beauté naturelle immaculée. De plus, la culture locale telle que Pasola, un festival traditionnel de lancer de lance organisé en février et mars, offre une expérience unique et inoubliable. Récemment, cette île de l'Est de l'Indonésie a également été sélectionnée dans le Forbes Travel Guide 2025. Cette île isolée convient aux touristes qui souhaitent trouver la paix et l'aventure. Si vous voulez obtenir le maximum d'expérience, visitez Sumba pendant la saison sèche, mai jusqu'à octobre, pour profiter du temps ensoleillé et de la meilleure chance d'assister à des festivals culturels. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Baju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri-beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri-beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Tersita waktu di layar, para sibuk berselancar.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Maudie Ayunda. Ayunda Faza Maudia, connue sous le nom de Maudie Ayunda, est une actrice, mannequin, écrivaine et chanteuse indonésienne. Maudia Yunda a sorti sa nouvelle chanson intitulée Poésie Kota le 25 novembre 2024. Dans cette chanson, Maudie Ayunda collabore avec le légendaire musicien indonésien Iwan Fals. Même si elle n'est sortie que le 25 novembre 2024, cette chanson a en fait été écrite pour la première fois par Maudie le 17 avril 2023. En dehors de cela, cette chanson implique également Simhala Avadana, chanteur du groupe Numata. Poésie Kota raconte des réflexions personnelles sur la vie à Jakarta qui est pleine de contradictions, où les grandes villes offrent de nombreuses opportunités et rêves à certaines personnes, mais d'un autre côté, les grandes villes peuvent aussi faire se sentir petites et seules. Bon, chers auditeurs, voici Maudie Ayunda, dont le titre est Poésie Kota. Bonne écoute! Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.